Bonsoir et bienvenue sur Radio Shalom Bourgogne pour le cinquième numéro de l'émission « J'ai rendez-vous avec vous ». Ce soir, je suis heureux d'accueillir un homme aux multiples casquettes. Il est à la fois maître verrier, vitrailliste et il vit une véritable passion pour l'accordéon. Ce sont justement ces deux talents que nous allons découvrir. Le premier lui permet de gagner sa vie en proposant des vitraux ou des objets décoratifs très joli et empreint de créativité. Le second talent est consacré à la musique. Et non seulement Pierre-Olivier Berthaud joue des morceaux, mais il les compose également. Bonsoir Pierre-Olivier Berthaud.
Bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Shalom.
Précisons d'abord que votre entreprise est située à Ezré, en Côte d'Or, et qu'elle a pour nom Pio Vitro d'Art. Vous êtes accompagné de Madame Berthaud, votre épouse, professeure des écoles et artiste, mais aussi de votre fille Léa, professeure de mathématiques et musicienne également, puisque flûtiste et membre de l'harmonie de sœurs. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vous souhaite à tous les trois la bienvenue. Nous évoquerons votre passion pour la musique et surtout l'accordéon, Pierre-Olivier, dans une seconde partie d'émission. Mais commençons par parler métier. Vous êtes né en 1968. Alors ça, c'est drôle parce que moi aussi. Et figurez-vous que nous sommes donc des conscrits. Nous avons vécu une école bien différente de celle d'aujourd'hui, en tout cas, dans notre enfance et dans notre adolescence. Pierre-Olivier Berthaud, racontez-moi, quel écolier étiez-vous ?
Alors, je n'étais pas forcément un bon élève dans les matières importantes comme les mathématiques et le français, mais j'avais déjà une certaine aptitude pour les métiers manuels et la musique.
Très bien. Et quand vous étiez adolescent, alors, vous rêviez d'être quoi ?
Adolescent, je rêvais de faire un métier manuel et d'être tailleur de pierre. J'avais trouvé du reste une école et ainsi qu'un maître d'apprentissage, mais la santé étant primordiale, il a fallu se résoudre à un abandon.
D'accord. Et comment vous est venue l'idée de vous lancer dans la verrerie d'art, Pierre ?
L'idée de me lancer dans la verrerie d'art m'est venue lors d'une visite au sein de l'atelier Claude Bertrand à Verdun-sur-le-Doubs, à la suite duquel j'ai commencé mon apprentissage.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur ce Claude Bertrand ? C'était qui ce monsieur ?
Alors Claude Bertrand, c'était un gros atelier chalonnais, donc c'est toute une affaire familiale, ça s'appelait Claudius Bertrand au démarrage, et les ateliers étaient de Claude Bénard au tout début, donc Claude Bénard était le patron de Monsieur Bertrand, qui est devenu avec ses fils l'entreprise Claude Bertrand.
Et vous avez fait un stage là-bas et ça a été comme une révélation.
Il m'a pris comme apprenti et donc ça a été le début de ma carrière professionnelle dans le monde du vitrail.
Très bien. Dans le monde du vitrail et du verre, puisque vous travaillez d'abord le verre, effectivement, mais vous avez fait du vitrail une spécialité. Est-ce que vous avez toujours été à votre compte ?
Alors non, je n'ai pas toujours été à mon propre compte. J'ai été salarié plus d'une trentaine d'années au sein de deux ateliers, donc Claude Bertrand comme cité précédemment, lors de mon apprentissage, ainsi que l'atelier de Pierre-Alain Parot à Ezré. Et depuis le 18 mai 2024, je me suis installé en entreprise individuelle à Ezré.
Très bien. Sur votre carte de visite est inscrit « Maître verrier vitrailliste ». Quels sont les points communs entre ces deux métiers, maître verrier et vitrailliste ? Et puis, qu'est-ce qui les différencie, Pierre-Olivier ?
Alors oui, effectivement, les deux métiers sont inscrits sur ma carte de visite. Ils sont très proches, mais pas synonymes. Le vitrailliste désigne une personne dont le métier est de concevoir, de réaliser ou de restaurer des vitraux. Le maître verrier est un titre honorifique, obtenu après des années d'expérience, qui permet d'être chef d'atelier ou encore maître d'apprentissage.
Donc c'est une appellation, on va dire, voilà, un titre qui vous permet de pouvoir exercer quelque part à votre compte grâce à ce titre de maître verrier.
Tout à fait.
C'est cela.
Oui.
Ok, très bien. Et qu'est-ce que c'est qu'un vitrailliste?
Alors, le vitrailliste, ça consiste à faire de la création de vitraux. Donc, on va démarrer par des dessins aux maquettes 1 dixième, parce que cette échelle existe depuis le 12e, 13e siècle. Donc, le 1 dixième, c'est simple, 1 centimètre représente 1 mètre. Donc, c'était beaucoup plus facile à faire des agrandissements. Comme on est 68, on n'agrandissait pas à l'ordinateur comme maintenant. On agrandissait avec une base de carré, comme faisaient tous les gens qui faisaient des agrandissements à l'époque. Ensuite, on obtient une calibration. Donc, la calibration, c'est le dessin qui va se faire sur papier. On va donner naissance à des calibres qui vont donner naissance après à la coupe sur verre. Une fois que la coupe sur verre va être faite, on peut intégrer éventuellement de la peinture sur verre pour donner naissance à des personnages, ou bien des scènes bibliques, ou un peu tous les thèmes qu'on peut avoir. Ensuite, on va intervenir sur le montage. Donc, le montage, c'est ce qu'on appelle aussi le sertissage au plomb. Et donc, ensuite, on va finir par le masticage. Alors, le masticage, beaucoup de gens nous posent la question, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est très simple. Un vitrail ne serait pas étanche s'il n'avait pas été mastiqué recto verso avec un mastic qui va empêcher l'humidité de pénétrer à l'intérieur du plomb et de revenir sur l'intérieur de l'édifice.
Est-ce que vous pouvez revenir sur ce mot calibre? Parce que nos auditrices, nos auditeurs ne sont pas des grands spécialistes comme vous. Mm-hmm. Est-ce que vous pourriez expliquer à notre public, auditeur, ce qu'est un calibre?
Alors le calibre, en fait, si vous voulez, on va dessiner donc ce qu'on appelle les traits, c'est-à-dire les cœurs de plomb sur un dessin. Et donc avec un ciseau particulier qui est un ciseau à trois lames, ce qu'on appelle un ciseau à calibrer dans le terme du métier, on va retirer l'épaisseur de lame du cœur de plomb qui représente 1,75 mm. Et ça n'a pas changé depuis des siècles et des siècles.
Ok, si on employait un terme un peu plus, on va dire, classique, on parlerait d'une structure, c'est ça?
On pourrait dire un gabarit papier.
Voilà.
Si ça peut aider les auditeurs, un gabarit papier. Et je vous incite à venir me voir à l'atelier pour qu'on explique ça et qu'on le voit en direct.
Alors ça, avec grand plaisir. Et comme j'ai eu l'occasion d'ailleurs de vous rencontrer dans votre atelier, vous êtes un fin pédagogue quand vous expliquez aux gens qui vous rendent visite.
Merci.
Cher Pierre-Olivier, nous allons marquer une première pause musicale. Et vous avez choisi de nous faire écouter Claudio Capeo, riche d'être père. Pourquoi ce choix ?
Pourquoi ce choix? Parce que j'ai eu la chance d'être papa et je pense que c'est le plus beau cadeau qui m'est arrivé. Voilà. Donc, place à Claudio et puis laissons-le chanter.
Il y aura les jours avec et les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serais fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurais plus quel est ton âge? Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant.
Olivier Berthaud, dans votre métier de maître verrier vitrailliste, quels sont exactement vos champs d'intervention?
Alors, j'interviens dans différents domaines, tels que la restauration et la création de vitraux pour les édifices religieux, des particuliers et des copropriétés. Je réalise également des objets de décoration d'intérieur, tels que des luminaires, des miroirs, des tableaux, ainsi que des lanternes pour l'extérieur.
La consultation de votre site internet ou une visite à votre atelier nous fait observer que vous pratiquez la recyclade. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce concept qui sonne véritablement écologique?
Alors, la recyclade est un concept économique et écologique émanant de mon épouse Sylvie, qui, en voyant les chutes de verre de couleur magnifique partir à la poubelle, eut l'idée d'incorporer ces morceaux de verre dans de la résine et de donner donc naissance à différents objets tels que des bouchons de bouteilles, des bougeoirs, des photophores, des vide-poches, des marque-pages, des porte-clés, ainsi que toute décoration déclinant des thèmes de différentes fêtes de l'année. Donc on peut dire éventuellement des sapins de Noël, des sorcières pour Halloween, etc.
Moi j'étais passé chez vous au moment des fêtes de Noël, et c'est vrai que tous ces petits objets comme ça alignés sur les étalages étaient magnifiques, et j'ai rapporté chez moi, ils sont en bonne place. Deux beaux marque-pages que je vous ai achetés ce jour-là. Quelles sont vos plus belles expériences professionnelles et quelles sont celles qui vous ont particulièrement touché?
Alors, mes plus belles expériences professionnelles ont été la collaboration avec de très grands artistes tels que le peintre Gérard Garouste pour Notre-Dame de Talent, la plasticienne et photographe Véronique Elena pour le vitrail des 1001 visages de la cathédrale de Strasbourg, avec lequel, au sein de l'atelier Parot, on avait remporté le prix Liliane Bettencourt, ou encore l'artiste Alban de Châteauvieux pour l'église des Colimaçons à l'île de la Réunion.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de chacun de ces artistes?
Alors, chaque artiste a une image et une marque bien précise. Gérard Garouste est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de repos et travaille à des heures complètement différentes des heures classiques. Donc on s'oblige à travailler avec ces artistes. Quant à Véronique Elena, j'ai la chance éventuellement d'être avec elle sur un projet d'un chantier. Donc on risque de repartir ensemble en duo. Donc je pense que ça peut éventuellement être sympathique.
Dans le métier que vous exercez, alors je pense aux petits objets de recyclade, mais aussi à ce que vous faites au niveau des entreprises et chez les particuliers, aussi vous travaillez sans doute chez les particuliers, Qu'est-ce qu'il en est de votre relation clientèle ?
La relation clientèle reste pour moi quelque chose de très intéressant. Je trouve que l'échange entre la personne qui souhaite un vitrail et le maître verrier est hyper importante, dans le sens que la personne peut venir aussi avec sa propre composition pour que je puisse lui réaliser son propre vitrail. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à mon atelier, souvent des grands-parents qui viennent avec des dessins de leurs petites filles ou petits-enfants pour réaliser ce vitrail.
Donc, qui sont vos clients ?
Alors, mes clients peuvent être, c'est très très varié, ça peut être du particulier, ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des copropriétés, parce que souvent dans les copropriétés, il y a des vitraux avec éventuellement des accidents. Il est arrivé un accident très récemment sur Dijon, un morceau d'échafaudage est passé à travers le vitrail en partie basse, donc il faut faire une restauration, évidemment. Ensuite de ça, il y a tout ce qui est partie église, et donc réaction et création. Parce que souvent dans les églises, le problème, c'est qu'on est dans des budgets qui sont très importants. Et le problème, c'est qu'en France, eh ben, les édifices, on les laisse un petit peu tomber. Mmh. Et le problème, c'est que c'est uniquement quand on se rend compte que le vitrail est en train de, je vais dire, passer de l'autre côté, comme on dit, qu'on nous appelle. Mais là, le problème, c'est qu'on intervient sur des sommes qui sont hyper importantes, alors qu'on aurait peut-être fait un tout petit peu d'entretien au préalable avant. On aurait peut-être pu emmener ça beaucoup plus loin sans avoir de gros travaux.
Ça, évidemment, c'est bien le problème des monuments historiques. Voilà. Et même le loto du patrimoine ne suffit pas à régler tous ces soucis de ces bâtiments qui vieillissent, ouais. Et de financement, etc.
Mais grâce à Stéphane Bern, ça apporte quand même beaucoup de sous qui rentrent dans certains édifices et qui nous permettent de travailler. Différentes corporations, je ne suis pas tout seul. Bien évidemment, Stéphane Bern fait travailler aussi des tailleurs de pierre, des charpentiers, etc. Mmh. Mais je trouve que c'est très bien parce que ça apporte... une autre couleur à la France et ça montre aussi qu'on peut avoir des budgets par des gens de mécènes ou des donations.
Quelle est l'étendue géographique de vos interventions ?
Alors, au début, j'en ai parlé un petit peu. Je faisais partie de l'atelier Paro, donc on a travaillé, c'est un très gros atelier de France, et donc on travaillait sur toute la France, voire l'international, sans aucun problème. Mais là, maintenant, évidemment, comme depuis que je suis installé à mon compte, je suis plus dans ce qu'on appelle le régional, quoi, pour le moment.
Il me semble que vous avez travaillé à l'abbaye de Cîteaux, vous pouvez me le confirmer ?
Alors, l'abbaye de Cîteaux, on est intervenu à l'abbaye de Cîteaux, mais il faut dire une chose, à l'abbaye de Cîteaux, il n'y a pas forcément des gros vitraux dans leur sanctuaire. Donc, c'est pas forcément... Oui, on y est intervenu, mais c'est pas forcément le lieu le plus bénéfique.
D'accord, très bien. Si je souhaite passer commande demain, comment dois-je procéder ?
Alors, pour passer commande, vous pouvez me contacter via mon site internet, mes réseaux sociaux style Facebook, Instagram et YouTube, ou éventuellement par téléphone. Pour les restaurations, veuillez me contacter pour une estimation, et pour les créations, on verra. Donc, j'effectuerai éventuellement une maquette ou un dixième selon vos désirs et à partir de vos propres esquisses. Et sinon, la découverte de mon atelier pourra aussi ouvrir vos horizons en voyant les différents morceaux de verre et les différentes couleurs.
Alors, j'imagine que pour les entreprises publiques, par exemple, vous passez par les marchés, vous vous positionnez sur des marchés publics.
Alors, on se positionne sur des marchés publics. Le problème, c'est que pour le moment, au niveau de mon entreprise, on m'a posé la question très récemment, est-ce que vous avez une garantie décennale ? Parce que beaucoup de gens se basent là-dessus. Mmh. Effectivement, j'ai une garantie décennale pour me protéger en cas de problème. Mais il n'y a pas de raison qu'on arrive à des problèmes avec des vitraux restaurés et qui passent entre de bonnes mains, entre autres.
C'est un très, très, très bon point pour vous, ça, la garantie décennale, c'est bien ?
Oui.
C'est une vraie garantie, c'est le cas de le dire.
Tout à fait. En plus de ça, cette année, j'ai eu la chance de participer à un trophée, une remise de trophée, qui est le prix de l'excellence artisanale. Donc, en fait, si vous voulez, ça vous permet d'être artisan et de faire partie de l'excellence artisanale, ce qui amène quand même déjà un tout petit peu de satisfaction au niveau de la société.
Bravo, bravo, très bien. En second morceau musical, vous nous proposez Didier Laloy, Las Escaleras. Pourriez-vous expliquer en deux mots à nos auditeurs qui est Didier Laloy d'abord et pourquoi vous avez choisi cette musique ?
Alors Didier Laloy est un musicien belge autodidacte qui pratique l'accordéon diatonique. Et la pièce que nous allons écouter est un tango accompagné par un orchestre philharmonique. J'ai choisi ce titre car j'apprécie la rencontre entre cet instrument traditionnel et l'univers du classique.
Merci beaucoup et nous écoutons tout de suite Didier Laloy. Pierre-Olivier Berthaud, merci beaucoup pour ce beau témoignage sur votre métier et qui montre bien réellement votre passion. Et si nous parlions musique à présent, vous êtes un passionné de musique et d'accordéon. Pourquoi avoir choisi l'accordéon comme instrument ?
Alors, je me suis passionné pour l'accordéon à l'âge de 7 ans lors d'une audition de musique, mais c'était un accordéon chromatique. Alors là, je vais peut-être détailler un petit peu. Je faisais partie d'une école de musique à sœurs. Nous étions 5 élèves à l'accordéon et il n'avait que 4 accordéons chromatiques à disposition. Et le professeur à l'époque a dit « Ceux qui travaillent le solfège auront les instruments ». Et comme je l'ai évoqué au début, j'étais pas forcément un très très bon élève là-dessus. Et le solfège avait tendance un petit peu à être un petit peu rébarbatif. Et donc j'ai décidé d'être un peu. J'étais pas le meilleur des élèves, donc je n'ai pas eu l'instrument. Donc là, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon père je suis désolé, mais j'arrête immédiatement l'accordéon. Et donc j'ai arrêté. Et donc mon papa était retourné voir ce professeur. Comme j'ai un fort caractère, c'était non et c'est non. Donc voilà. Et ensuite, mes parents ont créé un groupe folklorique Casseur, un groupe folklorique Morvandio. Et manquant de musiciens, et les musiciens n'existant pas à l'époque, je me suis tourné vers l'accordéon diatonique et je ne l'ai jamais quitté.
Alors, vous nous parlez d'accordéon chromatique, d'accordéon diatonique. Là aussi, pour la culture de nos auditrices et auditeurs, expliquez-nous un petit peu ce que c'est, ce que sont ces instruments et qu'est-ce qui les différencie, qu'est-ce qui les rassemble.
Alors l'accordéon chromatique, on va dire que c'est les gros instruments accordéon que vous voyez dans les bras de Richard Galliano ou éventuellement Yvette Horner pour les gens qui ont beaucoup plus d'âge, ou éventuellement l'accordéon de Claudio Capeo, qui est un accordéon chromatique. Donc l'accordéon chromatique, lorsque vous prenez la note est toujours la même quand vous poussez et quand vous tirez le soufflet. Donc après, vous allez partir sur l'accordéon diatonique. L'aspect diatonique est un accordéon qui va vous donner deux notes différentes entre le poussé et le tiré. C'est un instrument assez diabolique pour la bonne raison qu'il faut apprendre à gérer le coup de soufflet, comme on appelle ça.
Et quand vous parlez de notes, vous évoquez les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les notes qu'on trouve sur une portée musicale.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Et donc vous jouez à l'accordéon, vous jouez toujours soit sur la même note quand on pousse ou lorsqu'on tire sur le soufflet,
oui.
Ou deux notes différentes.
Ah, c'est deux notes différentes. Donc à chaque fois, vous
sur
avez...
Sur le diatonique.
Sur le diatonique, c'est deux notes différentes. Sur un chromatique, vous avez la même note. Effectivement, si c'est un si poussé, ce sera un si aussi en tirant.
Ok.
Tandis que nous, au diatonique, non, vous avez... La gamme est cassée à chaque fois par le poussé, le tiré.
Et il y a une logique dans l'association de ces deux notes?
Oui, il y a une logique. C'est toujours pareil, c'est la descente de gamme, donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et donc, vous retrouvez toutes ces notes qui vont se croiser. En plus de ça, avec un paramètre un peu bizarre sur la note du fa et du si sur un diato, c'est-à-dire sur un accordéon diatonique, vous avez un petit passage qui est différent, c'est-à-dire que le poussé devient tiré, et donc là, il faut penser à ce moment-là.
Ah, ça inverse...
La similitude, c'est-à-dire que si vous descendez une gamme, poussé, tiré, poussé, tiré, poussé, tiré, d'un seul coup, vous ne savez pas pourquoi, là, il y a un tiré et à nouveau un poussé.
Alors, vous avez joué de l'accordéon à 7 ans, ça s'est mal passé parce qu'on vous a en quelque sorte imposé le solfège à l'époque, et vous n'aimiez pas spécialement cela.
Oui.
Donc, vous avez abandonné, vous avez repris l'accordéon, et finalement, vous l'avez repris exactement quand, et depuis quand pratiquez-vous de l'accordéon?
Alors, j'ai repris l'accordéon diatonique depuis l'âge de mes 7 ans, et donc je n'ai jamais arrêté. Ensuite de ça, j'ai eu la chance de faire des stages de formation de diatonique avec système tablature dans le Morvan. J'ai, excellé assez rapidement tout en arrêtant l'école pendant un an. Donc, je ne devrais pas le dire, mais c'est pourtant la vérité. Donc, je me suis mis à l'instrument de musique pendant un an, au grand désarroi de mes parents. Mais par contre, effectivement, j'ai pris un niveau assez important qui m'a permis d'être professeur d'accordéon diatonique et d'enseigner le diatonique, entre autres, dans le Morvan.
Et voilà, ça c'est formidable. Système tablature, petite explication.
Tablature, c'est-à-dire, c'est ni plus ni moins que l'opposé du solfège, si on va dire. C'est-à-dire que le solfège, vous travaillez sur une base de partition, et la tablature, c'est ni plus ni moins qu'à la place d'une note posée sur une partition, vous avez une note qui est numérotée, avec un poussé et un tiré, et vous travaillez comme ça.
Pierre-Olivier, vous êtes interprète, mais vous êtes aussi compositeur. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord depuis quand vous êtes compositeur? Quand avez-vous commencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer? Commençons par là, déjà.
Alors, effectivement, je suis interprète et compositeur, mais je suis autodidacte, sans que c'est ce que j'ai dit avant, de musique traditionnelle et du Morvan. Et ensuite de ça, j'ai eu la chance de composer mon tout premier morceau lors d'un stage de formation musicale à Saint-Agnan, organisé par l'UGMM, l'Union des groupes et ménétriers du Morvan. Et j'avais des stagiaires et il fallait que je leur fasse faire un exercice pour passer, si vous voulez, une difficulté. Et cette difficulté, j'étais incapable de pouvoir la montrer sur tablature ou en visuel. Donc j'ai travaillé un morceau spécialement ce jour-là. Donc c'est ma première composition que les gens ont intitulé La Valse à Berthaud, parce qu'à l'époque, on ne s'abusait pas à donner des noms et tout ça. Donc, vous la retrouvez sur Internet, parce que cette valse est toujours encore un très, très bon exercice pour les élèves. Mm-hmm. Donc, elle est toujours en parution. Et donc, vous pouvez la rechercher et éventuellement travailler avec.
Donc, votre registre musical, vous en avez plusieurs ou un?
Alors, je suis plutôt spécialisé dans ce qu'on appelle le Morvan, c'est-à-dire tout ce qui est bourré, scottish, mazurka et polka. Et ensuite de ça, j'aime beaucoup le Morvan parce que mes parents et tous mes grands-parents, enfin toute la famille, étaient d'origine morvandelle. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais quitté ce domaine. Et ensuite de ça, toutes mes compositions ont quand même une base un petit peu d'intonation morvan.
Alors, est-ce qu'il existe un moment privilégié pour composer, puisque vous êtes compositeur? Est-ce que vous avez un moment de la journée ou de... Bon, bien sûr, vous travaillez, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'il y a des moments privilégiés pour composer, pour écrire?
Alors, il n'y a pas de moment privilégié pour composer et pour écrire. Mon inspiration est variable et mes compositions sont issues souvent de tous les événements de la vie qui nous entourent, c'est-à-dire aussi bien tristes que joyeux.
Et vous vous inspirez de ces moments-là?
Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple
Oui, j'ai fait la valse pour Léa. Donc, valse pour Léa, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Léa va venir et elle va venir jouer avec moi. Léa, c'est ma propre fille et je lui ai composé une valse lorsqu'elle est née. Et donc, cette valse tourne encore. Et voilà, donc, on a des images. Ensuite de ça, tout à l'heure, vous allez me faire jouer des morceaux lors de l'émission. Et donc, vous allez entendre une interprétation qui est la Scottish Crapouillette. La Scottish Crapouillette, on en reparlera tout à l'heure ultérieurement. Mais cette Scottish est un hommage à mon papa. Et le nom a été donné par Léa quand elle était toute petite.
Très bien. Léa a bien grandi maintenant, puisque comme je le disais au début de l'émission, elle est professeure de mathématiques. Comme nous l'avons dit au début de l'émission, Pierre-Olivier, vous êtes accompagné donc de votre fille, Léa, et vous avez décidé, pour notre plus grand bonheur et celui de nos auditeurs, d'interpréter deux morceaux. Vous à l'accordéon et Léa à la flûte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ensemble, votre fille et vous, à l'origine?
Alors, Léa, si vous voulez, elle a déjà un cursus musical de musique classique. Et ensuite de ça, je n'ai jamais voulu forcer Léa à venir jouer avec son papa. Ça a toujours fait partie de mon rôle de père. Je n'ai jamais voulu pousser ma fille à faire quelque chose qu'elle n'avait pas envie de faire. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai eu la chance de faire un concert à Sœur en hommage à mon papa, qui est décédé et qui a, lui, créé les temps rouges de Sœur, entre parenthèses. Mmh. Et grâce à ça, si vous voulez, ce jour-là, Léa a décidé de venir avec nous sur scène. Et là, pour moi, c'est le plus beau cadeau de pouvoir jouer avec sa fille sur scène.
J'imagine, évidemment. Et depuis ce temps-là, vous jouez régulièrement ensemble?
Alors, on essaye de jouer régulièrement ensemble, mais c'est suivant ses disponibilités, parce que comme vous l'avez cité, elle est professeure de mathématiques, elle n'est pas forcément tout le temps à la maison, et il faut répéter, et bon, elle a aussi sa vie, et sa vie est plus l'harmonie que la musique de son papa, donc je vais dire ce qui est normal, donc laissons-la faire, voilà.
Alors, quel est quel est le premier morceau que vous allez jouer? Racontez-nous brièvement son histoire.
Alors, le premier morceau que nous allons interpréter s'intitule « Valse pour elle au pluriel ». Et c'est une dédicace à toutes les femmes, et plus particulièrement à nos épouses, les épouses des musiciens du groupe Deuxième Moitié, qui à l'époque étaient souvent sur scène et en studio d'enregistrement. Donc il faut savoir que nos femmes subissent ça, parce qu'on n'est pas forcément à la maison, et elles nous suivent, et elles n'ont pas forcément... le droit de venir soit en studio ou des choses comme ça. Donc en fait, elles nous accompagnent, elles font l'intendance, elles font tout ce qu'il y a autour. Donc c'est un hommage à elles, quoi. Et très à bien. Toutes les femmes en général.
Super. Alors nous vous écoutons. Cher Pierre-Olivier, j'aurais une question à vous poser à présent. Comment trouvez-vous le temps pour écrire vos partitions ? Parce qu'avec votre métier de vitrailliste, vous devez avoir comme des semaines bien remplies, j'imagine. Est-ce qu'il existe des moments plus propices que d'autres pour vous lancer dans l'écriture ? Et comment vous trouvez le temps de composer ? Est-ce que vous composez toujours autant aujourd'hui qu'autrefois ?
Alors, là, il y a plusieurs questions dans la même. Donc, je n'écris pas de partition parce que je ne maîtrise pas le solfège. Je compose uniquement d'oreille, et il n'y a pas de moment plus propice que d'autres pour la composition de mes morceaux. Sachant que j'avais la chance, avant d'être, on va dire, j'aime pas ce terme-là, patron de ma société, mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus forcément le temps de me dire la composition. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une composition vient au feeling, et à un moment bien précis. Et là, grâce à votre émission, je me suis remis au travail et je pense qu'il y a un petit morceau qui est dans les tuyaux. Voilà.
Ah, donc à venir en 2026.
Peut-être.
Nous vous réinviterons pour nous le faire écouter.
Pourquoi pas, et à voir.
Et pour l'interpréter. J'aimerais que vous nous racontiez une ou deux expériences les plus marquantes. Parce que vous avez fait plusieurs concerts, vous en faites peut-être encore. D'ailleurs, vous êtes rattaché, vous êtes en solo ou rattaché à des groupes musicaux ?
Alors, je ne joue pas solo, très peu solo, parce que je ne trouve pas la nécessité de le jouer en solo. Moi, ma passion, c'est de faire de la musique à danser, c'est-à-dire de faire danser les gens sur ce thème musical. Les concerts, ce n'est pas forcément non plus ma tasse de thé. Pour la bonne raison qu'un concert, la personne vient voir une personne et se fiche sur, enfin, le regard se fiche sur cette personne et ça peut vous apporter ce qu'on appelle le trac.
Vous l'avez le trac sur ça?
Je pense qu'on peut en parler à tous les artistes. Je pense que tous les artistes ont le trac à un moment. L'entrée sur scène reste un trac, mais reste aussi une envie d'y aller. On peut pas déterminer ce que ça nous donne comme...
Et une immense joie une fois qu'on y est, en fait.
Tout à fait. Hein? Et après, le but, c'est de s'éclater. Et quand on s'éclate, eh ben, à ce moment-là, souvent, les gens qui viennent m'écouter me disent « Pierre, tu n'es plus Pierre ». C'est-à-dire que quand tu es sur scène, c'est plus la même personne.
Et alors, vous participez à des thés dansants puisque vous ne faites pas trop de concerts, à quelle occasion jouez-vous? Et quelle est là où les expériences qui ont été les plus marquantes et qui vous ont le plus touché?
Alors non, on ne fait pas de thé dansant, mais on fait beaucoup de balles folk, d'animation de balles folk. Mm-hmm. Ça reprend et ça redémarre beaucoup. Et ensuite de ça, on travaille souvent sur l'aspect du bal et en général, quoi.
Il y a une expérience qui vous a marqué, j'insiste
oui,
un peu sur...
Oui, oui. Alors, les expériences qui m'ont marqué, il y en a vraiment deux qui m'ont vraiment super marqué. C'est la première était le Festival de musique du monde à Paris, qui était le festival de Ris-Orangis, où j'ai eu la chance de monter sur scène accompagné par deux gardes du corps. Et ça, c'est assez impressionnant.
Ouais. Et pourquoi par deux gardes du corps?
Parce que ce jour-là, c'était un festival avec que des groupes de renommée. Et le problème, c'est que même si vous n'êtes pas groupe de renommée, ils se doivent de vous protéger avant de monter sur scène. Donc, ça fait drôle quand on n'est pas habitué. Ouais.
Contre les fans, alors, ou le public qui voudrait...
Bien sûr, mais nous sommes loin d'être des stars.
Oui.
Et le problème, c'est que c'est là qu'on se rend compte que les stars vivent cela au quotidien, quoi. Et là, on se dit, est-ce une image à garder ou pas, quoi?
Vous n'êtes pas une star, vous me dites, mais pour avoir échangé un petit peu avec vous juste avant cette émission, vous m'expliquiez que vos compositions ne se limitent pas, j'allais dire, au Morvan et à la Côte d'Or en particulier. Vos musiques, vos interprétations sont tout de même écoutées loin, très loin.
Oui, tout à fait. Ben, grâce à des festivals de musique style Festival d'Ars, entre parenthèses, dans le temps, c'était Saint-Chartier, on a eu la chance d'être au boom de notre orchestre à ce moment-là, avec l'orchestre Deuxième Moitié. Et avec Deuxième Moitié, on a fait, on peut dire, tout le Tour de France. Et effectivement, quand on joue en festival et que des morceaux que vous jouez sont, entre parenthèses, pris parce que ça plaît, ben, vous avez effectivement d'autres musiciens qui sont beaucoup plus, je vais dire, intéressants, voire un niveau supérieur au nôtre. Et quand ils vous demandent ça, je trouve que c'est une éloge et je trouve que c'est un plaisir, quoi. Et de rentrer dans un festival quand vous avez votre morceau qui tourne et que vous avez des gens qui disent « Ah tiens, c'est Pierre Berthaud, c'est lui qui a composé ça. » Je trouve ça, rien de plus fabuleux que ça.
Une très belle gratification.
Tout à fait.
Une très belle gratification. Quel est le second morceau que vous allez nous interpréter, Pierre, et comment est-il né?
Alors, le deuxième morceau que nous allons interpréter est la Scottish Crapouillette. C'est une Scottish que j'ai composée en hommage à mon papa quand il est décédé. Et le nom Crapouillette a été donné par Léa. Donc, si elle a envie, elle en parle. Voilà.
Léa, un petit mot sur Crapouillette et puis... Puisque vous avez le micro, est-ce que vous pouvez nous dire quelques petits mots sur votre expérience de musicienne?
Alors oui, tout à fait. Donc j'ai commencé la flûte traversière à l'âge de 7 ans, donc ça fait quasiment 17 ans que j'en fais maintenant.
7 ans, comme le papa à l'accordéon.
Oui, tout à fait. Donc après, pour ma part, donc, j'ai fait partie de l'école de musique de Brazé-en-Plaine. Ensuite, je fais partie de l'harmonie de sœurs. Et donc à partir de... 6-7 ans là en arrière, on a monté donc le groupe Hypnose Folk avec papa et avec deux autres musiciens, Teddy à la batterie et Benoît au violon et à la vielle. Et donc avec ce groupe là, on joue donc la Scottish Crapouillette en l'honneur de mon grand-père, et c'est moi qui ai donné ce nom là puisque mon grand-père avait un doigt avec une phalange coupée Et donc, quand j'étais petite, j'appelais ce doigt la crapouillette. Donc, c'est resté et c'est pour ça qu'on a donné ce nom-là à la scottish.
Un joli néologisme. Merci beaucoup, Léa. Donc, nous vous écoutons sur ce second morceau. Pierre-Olivier, comment peut-on écouter votre musique et vos compositions? Est-ce qu'on peut trouver des CD de musique qui vous appartiennent et où et comment?
Alors les CD ont sorti, bien entendu. Maintenant, ils commencent à être un petit peu âgés. Donc le problème, c'est qu'on n'en a plus guère en stock. On avait ressorti notre premier disque qui a très bien marché et on l'a ressorti deux fois. C'est-à-dire que quand on est des petits orchestres comme les nôtres, on n'a pas la chance d'avoir des producteurs qui vont nous solliciter et puis nous dire on fait directement 5000 CD et tout ça. Donc au début, on était parti sur une vente sur 3000 exemplaires. Et donc, étant donné qu'il est très très bien parti, on a refait un tirage à 3000. Donc notre CD s'est vendu à 6000 exemplaires.
Très bien.
Plus. Il faut savoir que vous avez aussi tous les gens qui faisaient des copies. Donc ça, vous ne pouvez pas l'interdire. Et après, on a eu des tas de mécanismes pour essayer d'empêcher ça.
Oui.
Mais de toute manière, vous ne pouvez pas empêcher cela. Et je trouve aussi que quand c'est la musique traditionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, on compose pour donner. Donc le but, c'est que les gens prennent.
Et est-ce que vous êtes présent sur les plateformes de streaming musicaux?
Alors, on n'est pas sur des plateformes streaming musicaux par la bonne raison que souvent, il faut quand même montrer un peu patte blanche pour entrer sur ces formes-là. Et ensuite de ça, non. Alors, si vous voulez écouter mes compositions, vous pouvez aller sur le site internet qui est Lama à Dijon. Ou éventuellement accordéon tab, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire accordéon tab pour tablature. Donc vous pouvez les retrouver. Donc effectivement, vous allez retrouver la tablature, éventuellement la partition, et en plus de ça, vous allez retrouver derrière les fichiers MP3, voire l'enregistrement original du morceau.
Mon petit doigt me dit aussi que même s'il produit ces petits objets magnifiques de la recyclade, l'idée pourrait bien venir un peu de vous aussi. Vous pouvez nous en dire plus?
Oui, effectivement. Lorsque Pierre produit les différents vitraux à l'atelier, il produit également des chutes. Et pour moi, ça me semblait inconcevable de les jeter. Donc, il me semble que c'est dans l'air du temps d'essayer de recycler et de tenir compte de tous ces déchets, en fait. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des mois, on voit que cette idée de recyclade est relativement appréciée des différentes personnes qu'on est amené à rencontrer.
Vous êtes femme de musicien aussi, Sylvie. Comment vit-on ce statut de femme de musicien ? Pierre-Olivier nous disait tout à l'heure que ce n'était pas toujours facile lorsque votre mari s'absente pour jouer, etc. Ou soit vous l'accompagnez dans les studios. En dehors de Radio Shalom, où nous accueillons tout le monde, vous n'êtes pas toujours autorisé à rentrer. Comment on vit tout ça ?
Écoutez, on le vit relativement bien parce que moi, je partage aussi cette passion qu'est la musique, parce qu'on s'est connus au sein de cette musique. Je faisais partie également du groupe folklorique Les Meneux des Buyottes, comme Pierre l'a évoqué précédemment. Donc moi, je ne faisais pas de musique, mais j'étais danseuse. Donc, au moment des bals, eh ben, nous, on ne joue pas de musique, mais on partage et on participe au bal. Donc, ce qui est fort agréable et qui nous permet de rencontrer. Et on a tissé tout un réseau d'amis grâce à cette musique traditionnelle. Et on vit des moments fabuleux.
Mais dites-moi, là, vous m'avez tendu une perche. Parlez-moi de votre expérience de danseuse. Vous avez dansé longtemps et vous êtes passionnée par la danse ?
Oui, j'aime beaucoup la danse folklorique, enfin la danse morvan, les baltrades dans lesquelles on trouve une ambiance qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. J'apprécie énormément le côté intergénérationnel. On peut avoir des petits qui vont danser avec des personnes plus âgées et une transmission du savoir, du patrimoine culturel qui fait aussi nos racines.
Et j'étais pour dire, puisque vous êtes professeur des écoles d'ailleurs, chaque année, en général, à l'école, il y a une petite fête de fin d'année. Est-ce que vous faites pratiquer la danse à vos élèves ?
Alors, on l'a eu fait, effectivement, dans un dispositif qui s'appelait École qui folk. Et donc, avec une collègue aussi férue de musique traditionnelle, nous avions mis en place les écoles qui folk. Et par le biais de ces danses, quoique traditionnelles, les enfants apprennent à vivre ensemble, sont confrontés au rythme et c'est très très intéressant et il y a beaucoup d'apprentissages qui se font à ces moments-là.
Magnifique. Alors dans la famille Berthaud, hein, on pourrait demander le père, je le rappelle, vitrailliste, accordéoniste, interprète, compositeur. On pourrait demander la mère, professeur des écoles, danseuse à 16 heures et surtout accompagnatrice efficace de son mari, tant sur le plan professionnel pour le motiver aussi, et puis sur le plan musical. Et puis la fille, professeure de mathématiques, Léa, et aussi grande musicienne et passionnée de musique classique. D'ailleurs, Léa, quel est votre musicien classique, au fond, préféré ? C'est une question un peu compliquée, mais est-ce que, en dehors de la flûte aussi, est-ce qu'il y a un autre instrument de musique que vous aimez bien ? Alors, l'accordéon, j'imagine, bien sûr, si vous participez, mais le piano, peut-être ?
Alors, au niveau des musiciens classiques, je n'ai pas forcément de préférence. J'aime beaucoup les 4 saisons de Vivaldi. Pour le bac, j'ai dû apprendre la revisitation de Max Richter, qui était aussi un arrangement plutôt pas mal. Et après, donc pour la seconde question, au niveau des instruments, à la maison, il y a quand même pas mal de choix, on va dire. Ah. Donc batterie, piano, les accordéons, etc. Après, pour le moment, je préfère garder la flûte. Je serais peut-être tentée par le violon, parce que ma grand-mère, elle en jouait, donc pourquoi pas essayer, ou le piano. Mais pour le moment, je garde la flûte.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour cette chouette émission et ce beau moment passé ensemble. C'est ainsi donc que se termine cette belle émission, haute en couleurs, tant elle nous a montré votre passion pour l'artisanat d'art, cher Pierre-Olivier, et pour la musique. Ajoutons à cela que vous êtes un homme très attaché à notre terroir bourguignon, le Morvan, vous en avez parlé, et que vous faites vivre de 1000 façons. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je vous souhaite de beaux projets pour cette année 2026 et les autres qui vont suivre. et je vous laisse la parole pour conclure.
Eh bien, tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes m'ayant soutenu lors de la création de mon entreprise, ce qui est le plus important parce qu'il faut savoir quand même que c'est ça qui me fait vivre, comme vous l'aviez dit au début. Je voudrais surtout remercier ma femme Sylvie et Léa qui s'y présentent et toute la famille pour leur accompagnement lors des changements de cette vie. Remercier tous les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom, toute l'équipe technique, donc merci Élie.
Élie, oui.
Et bien sûr, Frédéric, pour ton invitation et ton accueil. Une petite dédicace spéciale pour Mario, Sylvie et Didier. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rencontrer à mon atelier à Ezeray, où je vous attends avec plaisir.
Alors, j'ajoute que le dit Mario, thésar de son statut, sera un des prochains invités de « J'ai rendez-vous avec vous ». Mais la prochaine émission, j'inviterai une personne célèbre, s'il en est, puisque nous serons avec Juliette Nothomb, qui est la propre sœur, en fait, d'Amélie Nothomb. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Et en avant la musique, en avant les talents et les belles initiatives. À bientôt. Bye bye. Thank you.